Europe 1. Europe 1.
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'un homme qui a mis 45 ans pour dévoiler le lourd secret qu'il portait depuis ses 11 ans. Le secret qui a bouleversé sa vie. L'histoire donc de Raphaël, violé par un pédophile à l'âge de 11 ans en 1971, et qui récemment, finalement, malgré la prescription, a porté plainte et découvert au passage qu'il y en avait eu d'autres, comme lui. Histoire que je tire donc du livre de Raphaël Aimette, chez Max Milo. Ce sera notre secret. Il est là, bien sûr. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
C'est donc votre histoire que je vais raconter, et évidemment vous serez là tout à l'heure, pour la débriefer avec moi. Je l'ai écrite avec Éloi Audouin-Rouzeau. La réalisation est de Céline Lebras.
14h, 15h, on de la traconte sur Europe 1.
Au mois de juillet 1971, pour la deuxième année consécutive, le petit Raphaël, 10 ans, part en colo à Ormois, dans Lyon. Une colo à l'ancienne avec de grands dortoirs sombres qui sentent le renfermé. Le dirlo s'appelle Jackie. Bonjour à tous. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Je voudrais vous rappeler que nous allons vivre en communauté, hein. Que donc c'est pas comme à la maison. En communauté, il y a des règles. Il y a des droits et il y a des devoirs. Jackie présente les moniteurs. Ah, je voudrais aussi vous présenter l'infirmier, cette année. Approche-toi, Jean. Voilà, il s'appelle Jean. Il est étudiant en médecine. Tu peux peut-être dire quelques mots, Jean ? Ben oui, je suis super content d'être là. J'aime bien m'occuper des enfants. Et puis si vous avez le moindre bobo, y a pas à hésiter, il faut venir me voir. Je suis là pour ça. Dans cette colo très typique des années 70, l'essentiel des activités consiste à se promener à la campagne. On remplit un sac à dos de sandwichs, de chips et de fruits. Vous n'oubliez pas les gourdes, hein ? Et on marche. En portant le sac à dos à tour de rôle. Et à midi, on s'arrête pour déjeuner, en général près d'une rivière. On se baigne dans une eau glacée, on joue à Tarzan avec les lianes, et retour à pied. Le petit Raphaël aime bien la compagnie des adultes. Alors souvent, il va voir Jean à l'infirmerie, pour une égratignure, pour une ampoule, ou pour rien, parce que ça sent bon à l'infirmerie. N'hésite pas à revenir, hein, Raphaël. Je me sens un peu seul ici. Je m'ennuie un peu. L'année d'après, l'été 1972, Raphaël revient à Ormois. Il a 11 ans et il en a marre des balades à la campagne. Marre de jouer à Tarzan avec les branches. Il s'ennuie un peu. Et puis Jean, l'infirmier, n'est pas là cette année. Il lui manque. Pourquoi il n'est pas là, Jean ? Oh, écoute, il est dans une autre colonie. Je pourrais avoir son adresse ? Le dirlo lui donne l'adresse de Jean, et Raphaël lui écrit. Et Jean lui répond. Mon très cher Raphaël, je suis très heureux de recevoir des nouvelles de toi. Je suis surpris que vous n'ayez pas de beau temps. Ici, par contre, il fait très chaud. Quels sont les enfants de l'année dernière qui sont revenus cette année ? Ils pourraient peut-être m'envoyer un petit mot. Je compte sur toi pour leur donner mon adresse. Et puis quelques jours plus tard, arrive une carte postale de Jean. Et puis une autre. Et puis encore une autre, à la maison, en septembre. J'espère qu'on se verra avant la rentrée. Amitié à ta famille, Jean. Tient sa promesse. À Un jour de septembre, il arrive en Sim-Camille. Les parents de Raphaël lui font un bon accueil. On vous offre un apéritif. Alors, il a été sage, Raphaël, en colonie? Vous savez, moi, je n'étais que l'infirmier, mais... Oui, je crois qu'il a été sage. Il leur raconte qu'il est de milieu modeste, qu'il fait médecine, qu'il travaille l'été pour payer ses études. Il est séduisant. Et Raphaël est content de le revoir. Et il est fier quand Jean l'emmène faire un tour en voiture. Dis donc, la semaine prochaine, je suis de garde. Mais si tu veux, on se revoit dans 15 jours. Il fait beau. Le soleil entre avec délices dans la Sim-Camille. Raphaël a ouvert la vitre. Dis, Raphaël, si tu veux, je peux faire ton éducation sexuelle pour que tu saches comment faire avec les filles.
Ah oui? Si tu veux.
Puis je vais t'emmener voir un film. Il était une fois dans l'Ouest. Il y a une scène où Claudia Cardinal jouit. Je te dirai où c'est. En colo, Raphaël a découvert les Poppies, un groupe de gamins chanteurs très célèbres dans les années 70. Les Poppies, avec leurs cheveux longs, leur côté à la fois innocent et révolté, il les adore. Il veut leur ressembler.
Là-bas, là-bas, derrière la colline, là-bas, là-bas, où le soleil décline, j'ai entendu qu'il y a des garçons et puis des filles qui chantent des chansons pop qui tournent en mer.
Et Jean le sait. Ça te ferait plaisir de faire partie des Poppies?
Oh ben tu parles? Bien sûr que oui.
Eh bien je crois que je pourrais t'aider.
Il le croit. Il est aux anges. Jean enchante sa vie.
Ça s'est passé un jeudi après-midi. Les parents de Raphaël travaillaient.
Va quand même vérifier si la porte est bien fermée. On sait jamais.
Je vais t'expliquer comment on fait pour embrasser une fille.
Oh ben, c'est que j'ai déjà embrassé des filles, hein?
Ah bon? Alors je vais te montrer autre chose. Ils se sont allongés sur le lit, dans la chambre de Raphaël. Et Jean a commencé à l'embrasser. Raphaël n'oubliera jamais l'odeur écœurante de son parfum. Brut 33, de Fabergé. Et puis, il s'est déshabillé, il lui a demandé de faire pareil. À la fin, il a éjaculé dans sa bouche. Et puis, il l'a embrassé à nouveau.
Si ça t'a plu, on pourra le refaire. Et surtout, t'en parles pas à tes parents, hein. Ce sera notre secret.
Une autre fois dans sa Sim-Camille, Jean emmène Raphaël chez lui, dans son petit studio au rez-de-chaussée. Sombre, ça sent le renfermer. Les volets sont tirés, les rideaux aussi.
Ici, tu vois, c'est là que je révise mes examens. Et puis, c'est aussi ma garçonnière. C'est là que je reçois mes copines.
Sur la table, il y a des livres de médecine, avec des photos d'accidents de la route, mortels.
Tu veux boire un jus de fruits?
Oui.
Il l'embrasse. Brut 33 de Fabergé. Une autre fois, Jean vient le chercher. Raphaël s'est lavé le sexe, figurez-vous, avant qu'il n'arrive. Sim-Camille, à l'arrivée, il lui montre le canapé direct. Il n'y a plus d'initiation. Il n'y a plus de préliminaire. Il déplie le canapé.
Il se déshabille. Je me déshabille. Je suis sa chose. Je suis soumis parce que je veux pas trahir son amitié. Je veux pas le décevoir. Je veux pas qu'il s'en aille. Je veux pas qu'il s'en aille. Avec le temps, je me demande pourquoi j'ai rien dit. Cette pensée me hante. Ça se passe comme ça, environ toutes les deux semaines, pendant 2 ans, entre les 11 ans et les 12 ans de Raphaël. Toujours des fellations, jamais de pénétration. Et puis les viols s'arrêtent quand il a 13 ans. À 14 ans, quand il entre au lycée, il n'a plus aucun contact avec Jean. Pourquoi ? Il s'est souvent posé la question. Il se dit qu'il a eu peur. Peur qu'il en parle. Peur d'être dénoncé. À cette époque-là, Raphaël est un peu la tête de turc de sa classe. Il s'appelle Raphaël Emmett. Et tous les autres ont créé le clan des anti-émettiens. Il sait pas pourquoi. Il n'est pas faillot, il est plutôt cancre. Il le harcèle. Il se sent fort. Et lui se sent seul et abandonné. Raphaël, à cette époque-là, commence à boire. Il a 13 ans. Ma mémoire était anesthésiée. On vit, malgré tout. On vit avec des béquilles, l'alcool, le sexe, la drogue un peu. Mais l'alcool, beaucoup. J'ai vécu dans un autre monde. J'y ai survécu. 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Raphaël boit tous les jours. Le matin à 7h30, avant d'aller au lycée, un petit kir, un blanc cassis au bistrot du coin. Et un autre en rentrant le soir. Raphaël n'a aucun projet. Il s'enfonce. À la maison, il s'engueule avec ses parents. Et le soir, avant d'aller se coucher, il va boire un petit coup de cognac à la bouteille. L'alcool m'a permis de parler aux autres, de communiquer. Je ne pouvais pas vivre enfermé dans mon monde. Il fallait que je le quitte. C'était une question de survie. Raphaël a maintenant 26 ans. Il termine des études de pharmacie et un DEA en biologie. Il a un petit garçon de 11 mois, David, qui ne marche pas encore. Et il boit toujours. Et il a des tocs. Et il est asocial. Une bombe humaine, bouffée de l'intérieur. Ça fait 15 ans que Jean l'a violé. Et un jour, il a son fils sur ses genoux, il le pose sur le sol de l'appartement, il attrape le téléphone. Il a trouvé le numéro de Jean, qui est maintenant médecin généraliste à Montpellier. Et il l'appelle.
Allô ?
Allô ? Jean ?
Oui.
C'est Raphaël. Ben, je t'appelle pour te dire que maintenant je suis interne en biologie à Nantes. Et puis j'ai un petit garçon. Et toi ?
Écoute, moi je suis médecin généraliste, à Montpellier.
Ça te plaît ?
Oui, ça va. Il fait chaud ici.
Et comment vont tes parents ?
Mon père est mort. Tu te souviens qu'il était bijoutier ? Il a été assassiné dans sa bijouterie, par des braqueurs.
J'aimerais bien te revoir. Et te présenter ma femme et mon fils.
Avec plaisir. Écoute, rappelle-moi vers le mois de juin. Cet été, on est au Club Med à Évian, avec ma femme. Vous pourriez passer nous voir.
D'accord. Raphaël raccroche. Il est content de lui avoir parlé. Content de lui avoir annoncé qu'il avait un fils. Mais le soir, il n'en parle pas à sa femme. Et au mois de juillet, ils ne vont pas à Évian. Raphaël a maintenant 38 ans. Il est bouffé par les angoisses. Une, notamment. Une qui concerne les enfants. Il a peur des enfants. Il a peur de les croiser. Il ne peut pas les toucher. Un jour, il est dans la rue, il se sent pas bien. Il a des nausées, il transpire, et d'un coup, cette angoisse le paralyse. Il a peur de toucher les enfants qui passent. Il a peur d'abuser d'eux. Je suis nuisible. Je suis une merde. Je mérite pas de vivre. Et même ses propres enfants. Il en a deux maintenant. Il a peur de les toucher. Il ne peut même pas les embrasser. Un soir, sa femme est en déplacement à l'étranger, il laisse la nounou s'occuper des petits, il mange seul, le nez dans l'assiette, et d'un coup, tout lui explose à la gueule, comme un flash. Il est tard, il faut qu'il appelle sa femme, il faut qu'il lui parle, maintenant, c'est un besoin vital pour ne pas devenir fou. Allô ? Marie ? C'est moi. Il faut que je te dise quelque chose maintenant, Marie. Quand j'étais gamin, j'ai été violé par un homme, quelqu'un en qui mes parents avaient totalement confiance. C'est la première fois qu'il le dit, et sa femme est psychiatre, et elle l'oriente vers un confrère en qui elle a confiance. J'ai dit oui jusqu'au moment où n'en pouvant plus, j'ai dit non. La soumission a fait place à la révolte. Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Ça n'a pas été facile. Je n'avais pas la sensation que ce pervers m'avait sali. Mais Jean a pris ma dignité. Il a pris mon estime de moi. Raphaël commence alors une thérapie pour réaliser que ça n'est pas de sa faute, pour remettre l'église au milieu du village. Jean est le violeur et lui est le violé. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un long chemin. Il est régulièrement bouffé par les angoisses, un jour à l'opéra par exemple. Il est plongé dans le noir, il ferme les yeux, il n'arrive pas à profiter du spectacle, cette chaleur, cette obscurité, cette promiscuité. Il se sent oppressé, il sent des picotements, il se met à transpirer, à s'agiter sur sa chaise, il voudrait se lever et partir, mais il n'ose pas. Il n'écoute plus la musique, il ne voit plus les chanteurs, il est pétrifié. J'ai peur de mourir, de me tuer, de me suicider. Le mot suicide m'obsède. J'ai peur de tuer quelqu'un. J'ai peur de me balancer sous une rame de métro ou sous un train. J'ai peur de balancer quelqu'un d'un pont. J'ai peur de toucher des enfants. J'ai peur de prendre la parole en public. J'ai peur d'avoir froid. J'ai peur de ne pas être assez couvert. Je suis si différent des autres. Porter plainte. Au moment où Raphaël a fait assez de chemin, ben c'est trop tard. Les faits sont trop anciens, ils sont prescrits. Mais une amie lui suggère de le faire quand même. Alors un jour de 2016, Raphaël a 55 ans, il appelle le commissariat.
Commissariat de police, bonjour.
Oui, bonjour. Je voudrais la brigade des mineurs, s'il vous plaît.
Ça ne s'appelle plus comme ça, monsieur. Ça s'appelle la brigade de protection des familles. Mais ne quittez pas, je vous passe le service.
Raphaël a un rendez-vous. Il est anxieux. Il va devoir se mettre à nu.
Monsieur Emmett ?
Bonjour.
Brigadier de police chez vous. Venez avec moi, suivez-moi.
On était dans la voiture. Je me souviens précisément, il avait une Simca 1000, blanche et noire. Il m'a dit, je peux te donner des tuyaux pour draguer les filles. J'ai pas vu à malice. Avec le recul, j'étais gamin. J'étais sous son emprise. Il était séduisant. Il était un modèle. J'ai dû répondre bêtement. Je pouvais pas être contre. C'est sympa pour un jeune garçon d'apprendre à draguer les filles. Et puis après, une fois par mois environ, il venait chez moi. Il a commencé à abuser de moi. Est-ce qu'à un moment de votre relation, vous dites à Jean que vous ne voulez pas continuer? Non. J'ai beaucoup d'affection pour lui. J'ai de l'admiration. Je veux pas décevoir un grand qui s'occupe de moi. Mais je pense qu'il se rend compte que j'aime pas ça. Mais il s'en fiche, il continue. Pour quelle raison faire ces démarches aujourd'hui, monsieur? Une psychologue m'a dit un jour que si je le faisais pas pour moi, je le ferais peut-être pour d'autres. Je voudrais que cet homme prenne conscience de ce qu'il m'a fait. Que ce qu'il m'a fait m'a accompagné toute ma vie. Que j'en porte des séquelles. Que ça n'a pas été anodin, comme il a pu le penser. La policière dit à Raphaël qu'elle le tiendra informé. Il sort du commissariat, 55 ans, vidé. Et il pleure. Quelques jours plus tard, la policière le rappelle.
Monsieur Emmett. Alors, pour vous tenir au courant, j'ai eu en ligne le commandant de gendarmerie de Montpellier, où il habite. Ils le connaissent bien, figurez-vous. Il a d'autres histoires à son actif. Il a déjà été condamné, c'est un vrai prédateur sexuel, hein. Et il fait actuellement l'objet de procédures pour des faits qui sont non prescrits. Et le juge a accepté que votre plainte soit versée au dossier, même si les faits sont prescrits.
Ah, merci. Merci du fond du cœur, madame. Comment va-t-il se comporter? S'il y a une confrontation avec lui, il a dû changer physiquement. Il a peut-être perdu des cheveux, pris du poids. Est-ce que je le regarderai avec mépris ou avec haine? Est-ce que je lui sauterai à la gorge?
Je le reçois chez nous, comme si de rien n'était, et j'embrasse ses joues, comme s'il le méritait. Je le traite comme si je ne savais rien du tout. Je cache mon mépris, je masque mon dégoût, puis je souffle à son lobe. Donnez-moi votre manteau, et dans la garde-robe, je le place comme il faut. Et je lui offre à boire, comme à toute la famille. Je lui dis de s'asseoir, comme pour être gentille.
Et si je termine mon histoire par cette chanson de Linda Lemay, Raphaël, c'est parce que vous la citez elle-même dans votre livre. Vous l'aimez, cette chanson?
Oui, je l'aime beaucoup, parce que c'est une chanson, justement, qui parle de pédophilie, et avec finalement la même histoire, quoi. C'est-à-dire que Le pédophile avant se masquer, c'est se rendre sympathique, est un ami de la famille. C'était le cas dans la chanson de Lina Lemay, c'était aussi le cas pour moi. Donc oui, effectivement, c'est très touchant.
Alors le procès n'a pas encore eu lieu. Est-ce que vous y témoignerez à ce procès?
J'y témoignerai si je suis appelé à témoigner. Je le serai comme témoin simple. Puisque
vous ne serez pas partie civile.
Je ne serai pas partie civile, comme il a été dit précédemment.
Les faits étant prescrits.
Les faits étaient prescrits à l'époque, et largement prescrits. Et si je suis appelé à témoigner, j'irai.
Avec de la haine c'est la dernière question de mon récit, justement. Est-ce que je le regarderai avec mépris ou avec haine?
Avec mépris sans doute, avec haine peut-être.
Vous n'êtes pas allé jusqu'à ne plus avoir de haine. Vous n'en êtes pas encore là.
Non.
Vous pensez vous y arriverez?
Je ne sais pas.
Pas avant le procès en tout cas.
Oui, de toute façon pas avant le procès.
Lui sauter à la gorge, c'est aussi une hypothèse que vous formulez vous-même. Il y a un autre passage dans le récit où vous dites « j'ai envie de tuer ».
Oui.
C'est de lui qu'il s'agit?
Oui, c'est de lui et mon psychiatre m'avait dit « si vous avez envie de le tuer, tuez-le virtuellement, symboliquement ». Et j'ai écrit un polar où je le tue. Enfin, j'ai le manuscrit. Après, le problème, c'est tous les dégâts que ce type a fait, qui était à l'époque étudiant en médecine, donc qui pouvait faire fonction d'infirmier dans les colonies de vacances, qui est même maintenant médecin.
Mais qui a utilisé, a priori, son statut de médecin pour s'approcher des enfants?
C'est difficile à dire, parce que je ne l'ai pas revu, en tout cas, dans un premier temps.
Mais vous savez ce qu'il y a dans la procédure concernant les autres enfants?
Oui, alors, je voulais simplement rappeler que étant infirmier, l'infirmerie d'une colonie de vacances est quand même un havre de paix et de sécurité. Donc il a pu s'en servir. Il est vraisemblable qu'il ait usé de ses fonctions de médecin, en tout cas pour un enfant. Oui.
Alors si on reprend l'histoire au début, Raphaël, ce qu'on comprend au début de cette histoire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à expliquer. Vous aimez la présence des adultes, vous la recherchez, ce qui n'est pas totalement normal pour un gamin. Un gamin qui est bien dans ses baskets, il cherche la présence des enfants. Et c'est votre point de faiblesse. Et en fait, c'est ça qu'il repère.
Oui, c'est pervers et malsain. C'est-à-dire qu'il repère le fait que j'étais seul, le fait que je préférais être des gens plus âgés que moi que des gens de mon âge. Et j'étais aussi, à l'époque, enfant unique. Donc effectivement, il s'est engouffré dans cette faille, mais il s'engouffre toujours dans une faille.
C'est-à-dire qu'il vous sait faible, il vous voit faible, il vous aime faible.
Oui, je pense qu'il me voit dans l'attente d'amitié, de compagnie, de recherche, et c'est ce qu'il va s'efforcer de développer.
Un point que je n'ai pas évoqué, mais à la même époque, il passe son temps à vous demander des nouvelles des autres enfants,
ouais,
de la colo.
Ouais,
il voudrait les revoir, eux aussi.
Et non seulement ça, je pense qu'il voulait les revoir. Et un jour, nous étions en banlieue parisienne. Et nous sommes passés devant un immeuble où il y avait un copain qui était en colo avec moi. Et il m'a dit, tiens, un tel habite là et ce serait bien qu'on se revoie ensemble. Et avec le temps, je pense à tout ça d'une façon différente. Ouais.
Il a fait ça pour vous rendre jaloux?
Non, je pense qu'il n'a pas fait ça pour me rendre jaloux. Je pense qu'il a fait ça pour abuser de lui aussi et peut-être de nous deux ensemble.
C'était son projet?
Je pense, oui.
Ça n'est pas allé jusqu'à ce point-là?
Non.
Alors évidemment, un des points forts de votre histoire, d'ailleurs vous en avez déjà parlé, c'est le fait que vos parents se soient fait embrouiller comme vous. En fait, vos parents dont la fonction est de vous protéger. Est-ce qu'à un moment de tout ce processus, vous leur en voulez de ça? Vous le leur dites juste à la fin. Je n'ai pas raconté le moment où vous le dites à vos parents. Vous le dites en fait après avoir porté plainte. Hein?
Oui, je le dis après avoir porté plainte. Nous sommes allés au restaurant avec ma sœur. Je l'avais dit à ma sœur avant. Et mes parents ont été terrifiés, absents. Et mon père a dit et dire qu'il était si gentil.
C'est-à-dire qu'ils sont restés scotchés au
fait
qu'ils
sont restés scotchés à cette
à sa gentillesse.
À sa gentillesse, cet étudiant en médecine propre sur lui, d'un milieu modeste comme je l'étais.
Qui travaillait l'été.
Qui travaillait l'été et qui était parfaitement hétérosexuel.
Ouais.
Et donc, vis-à-vis de moi, c'était très flatteur et valorisant. Et qui plus est, mon père était policier.
Ah, ça, ça vous le dites pas dans le livre. Alors, est-ce que à un moment donné,
j'ai pas répondu à votre
toute
question,
cette histoire, vous leur en voulez?
Oui, c'est ça. Non, je leur en veux pas parce que déjà, c'était une autre époque où on était beaucoup moins sensibilisé aux problèmes de pédophilie, si tant est qu'ils soient traités correctement maintenant. Et je pense qu'ils ne pouvaient pas imaginer ce qui se passait. Et aussi, pour une raison simple, c'est que je ne leur en ai jamais parlé.
Et vous pensez que ça ne se voyait pas à aucun moment, votre trouble ?
Si, ce qui se voyait, c'est mon trouble.
Ils ne l'ont pas vu ?
Ils ont vu mon trouble. Mes parents étaient parfaitement, et ils le savaient malheureusement, puisque je buvais beaucoup, j'étais sous quasiment tout le temps, ils le voyaient, mon trouble. Mais je pense qu'ils ne l'ont pas rattaché à ça.
C'est étrange, parce que c'était une époque où on ne voyait pas ce mal-là. Et aujourd'hui, on serait presque à l'inverse, à imaginer tout de suite que si un adulte est là près d'un enfant, c'est forcément un prédateur.
Tout à fait. Ouais.
Les facteurs se sont totalement renversés.
Oui. Et je ne sais pas si c'est pour plus d'efficacité.
Après le premier viol, il vous dit « si ça t'a plu, on pourra le faire ». Elle est étonnante, cette phrase. Parce que il y a le début de « est-ce que ça t'a plu ?». C'est-à-dire que on voit qu'il, sans doute, il est traversé par une question morale à ce moment-là. Et si vous lui dites « ça m'a pas plu », à ce moment-là, peut-être que ça va pas plus loin.
Oui, alors après, peut-être que si je lui avais dit « ça m'a pas plu », il aurait pensé que j'en aurais parlé à mes parents.
Ouais.
Et c'était peut-être le sens de la question. Et en fait, c'est ce que je dis dans le livre, il était néanmoins, pour moi, en dehors de ça, une compagnie agréable.
Qu'est-ce qui fait que vous allez être néanmoins content de le revoir les fois d'après ?
Je suis content de le revoir parce que j'espère à chaque fois qu'il ne me violera pas.
Ça arrive une fois, je crois.
Ça arrive une fois.
Une fois, vous passez un après-midi sympa et puis il ne vous viole pas.
Voilà.
Et ce moment est délicieux.
Et ce moment est délicieux. Ouais.
Comme si vous aviez coupé le bonhomme en deux, en fait.
Oui, quel bonhomme, lui ou moi ?
Lui.
Lui et moi.
Ben vous aussi.
Et lui et moi.
Ouais. Mais lui, c'est-à-dire, il y a une part de lui que...
Oui, mais c'est toute l'horreur des pervers, des prédateurs sexuels. Bien sûr. Il ne m'a pas attaché avec des liens physiques. Il a fait beaucoup mieux que ça. Il m'a attaché en me promenant au cinéma, en sortant avec moi. Voilà, les conditions étaient différentes.
Je veux qu'on parle de ce coup de fil que vous passez. Vous avez 38 ans. Vous êtes passé par toutes les couleurs. Vous avez sombré dans la dépression, un point dont je n'ai pas parlé parce que c'était pas aisé à comprendre. Vous êtes tombé dans l'addiction au sexe, hétérosexuel. Hein. D'ailleurs, vous avez été hétérosexuel tout le reste de votre carrière amoureuse. Vous l'appelez. Et la conversation téléphonique, telle que je l'ai reproduite à l'identique de ce que vous décrivez dans votre livre, est celle d'un petit garçon.
Oui, alors, j'avais pas 38 ans. Hein. 38 ans, c'est quand j'ai eu le problème et que j'ai appelé ma femme. Là, c'était quand mon fils avait un an. C'était en 87, 88.
Donc, vous avez...
Donc, j'avais 25, 26 ans.
D'accord.
Voilà, j'étais un peu plus jeune. Et je finissais mon internat. Et je préparais un DEA en cancérologie. Et effectivement, j'avais mon fils sur les genoux et je l'ai appelé.
Et... C'est fulgurant, hein, comme...
Oui. Oui,
décision.
Oui, c'est fulgurant comme décision les propos sont tenus à l'identique dans le passage que vous avez donné. Je pense au début, quand je l'ai appelé, il s'est demandé pourquoi je l'appelais.
Mais vous, il y a le début de « je vais lui dire ».
Non.
À aucun moment vous n'avez cette intention.
Non.
Vous l'appelez pourquoi ?
Je l'appelle pour lui dire, pas ce qu'il m'a fait subir, mais pour lui dire que j'avais un enfant, que je venais d'avoir un enfant.
Ça voulait dire... Quoi,
Alors, c'est un comportement qui étonne,
oui.
Et j'en ai parlé il y a quelques années à mon psychiatre, et lui il explique en disant que c'est une façon de dire voilà, maintenant je suis un homme, je fais ma vie et j'ai plus besoin de toi.
Et tu m'as pas bousillé.
Oui, tu m'as pas complètement bousillé.
À aucun moment vous ne lui faites sentir que peut-être.
Non, lui il l'a senti au début, il a eu peur au début que je lui dise.
Vous le sentez, vous, sa voix,
Oui, parce qu'il s'est demandé pourquoi je l'appelais. J'étais plus en relation avec lui depuis des années.
Vous racontez que pendant toute votre période de dépression, vous avez une hantise. c'est de toucher les enfants. Mmh. Au fond, de devenir pédophile vous-même, pour dire les choses clairement. Vous pouvez expliquer ça. De quoi se nourrit cette hantise, cette angoisse?
C'est difficile à comprendre et c'est difficile à expliquer. Je pense, et c'est ce que je dis dans le livre, qu'à un moment, j'ai fait la différence entre l'abuseur et l'abusé.
Mmh.
Et quand on est abusé, et finalement, on n'a rien dit, puisque je, comme je le disais tout à l'heure, il ne m'a pas attaché, on se sent quelque part complice des viols. Et si on se sent complice des viols, on se dit, lui est pédophile, il m'a souillé, et je peux moi aussi en souiller d'autres. Sachant que ce que je vous dis n'est pas théorique. On sait que des pédophiles ont subi, ont été violés.
La plupart des pédophiles sont des victimes.
Sont des victimes. On sait que des enfants de prostituées se prostituent, etc. Donc,
mais chez vous, c'est intéressant parce que c'est une peur et ça n'est pas une envie.
Oui.
Ben, enfin, ça n'est pas ce que vous dites.
Non, non, mais tout à fait.
Vous,
mais
vous dites pas j'ai envie de toucher les enfants, vous dites j'ai peur de les toucher.
Et c'est la différence entre le suicide et le TOC, donc le trouble obsessionnel compulsif. Le suicide, c'est l'envie de mourir, l'envie de se suicider, et le TOC, c'est la peur de le faire.
Le suicide, je n'en ai pas parlé.
Non.
Vous en parlez de manière un peu... Voilà, on glisse dessus, on sent que ça existait.
Oui, mais je pense que ça existait, je n'ai jamais fait de tentative de suicide.
Mais c'était là, quoi.
Oui, c'était là, et puis je me suis un peu suicidé à l'alcool, quand même.
Ce qui est un suicide à petit feu.
Oui,
ouais, ouais. Probablement.
Oui.
Votre travail thérapeutique, c'est quelque chose que vous avez refermé? Où on ne referme jamais ce genre
non,
de travail-là.
Je l'ai pas.
C'est addictif, la thérapie.
Oui, oui. Non, je ne l'ai pas refermé. J'ai commencé donc à 38 ans. Ça fait plus de 20 ans. Et j'ai arrêté de voir mon psychiatre parce qu'il est décédé. Donc j'en ai pris un autre et je suis toujours en thérapie. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on prend un nouveau psychiatre? On lui dit tout ce qu'on a appris du précédent pour on redémarre à zéro?
Oui, ben on essaie de faire un résumé, de redémarrer à zéro. Et comme il était plus jeune, c'était plus facile pour moi. Je savais que je resterais plus longtemps avec lui.
Le livre, c'était thérapeutique, hein, c'est votre psychiatre qui vous a conseillé.
Oui, oui, c'est mon psychiatre qui m'a conseillé de le faire. A priori, je n'avais pas l'intention de le faire. Il m'a dit, écoutez, faites-le.
À l'usage, il a eu raison?
Oui.
Ça a fait du bien de l'écrire?
Oui.
Et de le faire lire.
Oui, 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 de le faire lire.
Aux proches, en vérité.
Oui, alors ma mère l'a lu et elle a pleuré pendant 3 jours. Et elle a lu des extraits à mon père.
Mmh.
Je pense qu'elle a dû sélectionner les extraits les moins durs.
Ce livre s'appelle « Ce sera notre secret ». Il est publié chez Max Milo. Il est signé Raphaël Emmet. Merci beaucoup Raphaël Emmet d'avoir... accepter de me confier cette histoire si douloureuse.
Merci à vous.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.